Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican et nous sommes ensemble pour une autre édition de notre programme. Soyez les bienvenus. La défense des peuples autochtones, une question de justice, mais aussi une garantie pour l'avenir. C'est ce qu'a affirmé le pape dans son message adressé aux participants du Forum mondial des peuples autochtones du FIDA, qui se tient du 10 au 11 février à Rome. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo appelle à dialoguer, même avec ceux que nous considérons comme nos ennemis. C'était lors d'une messe qu'il a présidée dimanche 9 février en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Revenant sur la guerre dans l'est de son pays, l'archevêque de Kinshasa a appelé au dialogue pour parvenir à la paix. Après l'actualité sociopolitique africaine, la parole sera donnée à Marianne Séverin, experte de l'Afrique du Sud, qui nous expliquera les raisons du rapprochement entre Kiev et Pretoria. Notre invité du jour en fin d'édition sera Mgr Abel Liluala, archevêque de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il nous parlera notamment de la formation de ses prêtres, un des défis du diocèse.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Dans un message adressé aux participants du Forum mondial des peuples autochtones du FIDA, le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole, qui se tient à Rome du 10 au 11 février sur le thème « Le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, une voie vers la sécurité et la souveraineté alimentaire », le pape François a dénoncé l'accaparement croissant des terres agricoles par les multinationales et les États comme des pratiques néfastes qui menacent le droit à une vie digne des communautés locales. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a ouvertement condamné dimanche 9 février l'incursion des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise à l'est du pays. Au moins 3000 personnes ont péri dans les combats selon l'ONU. Lors d'une messe pour la paix et les victimes célébrée dimanche en la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'archevêque de Kinshasa a invité à prier pour les victimes et a appelé les belligérants au dialogue pour parvenir à la paix.
Dialogue, c'est le mot sacré, c'est le maître mot qui peut nous aider à sortir de notre situation actuelle. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Aller en profondeur signifie aussi que tous accepte de s'asseoir autour de la même table et règle leurs différends par le dialogue selon la palabre africaine. Pêcher en eau profonde, c'est pour la communauté internationale le courage d'aller au-delà des simples déclarations et d'engager toute son influence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. La nation est en danger. Chaque minute qui passe est cruciale. Ne perdons plus du temps si nous voulons sauver notre pays.
Voilà le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sonore. Partons à présent pour le Sénégal, où a été organisée récemment la 33e édition de la Ziara annuelle à Bambilor, près de Dakar. Pour la première fois de son histoire, la Ziara, rendez-vous annuel musulman du Sénégal, a compté parmi ses invités un représentant du Saint-Siège, à savoir le nonce apostolique Mgr Waldemar Stanislaw Sommerteg. Cette journée était organisée par le calife général Serigne Thierno Abouba. Devant la communauté musulmane, Mgr Sommerteg a réaffirmé la conviction du pape François qu'au nom de Dieu, il faut toujours unir et non diviser. Au thème de ce message de paix, Mgr Sommerteg a prié pour l'ensemble des Sénégalais et remis une médaille en bronze et un tableau représentant Saint François d'Assise avec le sultan en Égypte. L'Église a célébré dimanche 2 février en la fête de la présentation du Seigneur, la journée mondiale de la vie consacrée. Au Cameroun, les diocèses de Bouéa et de Douala ont choisi de célébrer cette journée les 8 et 9 février derniers. Occasion pour ces religieux et religieuses d'exprimer leur gratitude au Seigneur pour le don de la vie consacrée en cette année jubilaire. La paix, comme fruit de l'espérance, a été particulièrement mise en exergue. Paul Valéry Mendogo.
La célébration de la vie consacrée dans les diocèses de Bouéa et de Douala a été marquée par des moments intenses de communion, de pénitence et d'enseignement sur les dispositions nécessaires à prendre en vue d'être effectivement signe et porteur d'espérance par le moyen des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et dans un Cameroun assoiffé de paix véritable. Sœur Lydie Clémentine Domo est la présidente de l'Union des religieux et religieuses de l'archidiocèse de Douala et membre de la Congrégation des Sœurs Missionnaires Croisées de l'Église.
Cette journée est une occasion de renouveler notre engagement, notre disposition, notre désir de travailler pour que règne la paix, pour que règne l'unité, pour qu'il règne l'amour autour de nous.
À Bouéa, au cours de son homélie, Mgr Michael Bibi a rappelé aux personnes consacrées la centralité de l'Eucharistie, qu'il a d'ailleurs présenté comme le moteur de la communion et de l'unité. Tandis que dans l'archidiocèse de Douala, Mgr Samuel Kleda a encouragé les personnes consacrées à continuer à se mettre au service des personnes de façon libre, gratuite et généreuse, et à se préparer chaque jour, en toute foi et confiance, à rencontrer le Seigneur dans la prière quotidienne et à la fin de leur existence terrestre. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Célébrée durant la Semaine Sainte, la messe chrismale a été vécue par anticipation la semaine dernière par l'archidiocèse de N'Djamena au Tchad. Elle a été présidée par Mgr Edmond Djitangar en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena. Cette archidiocèse a organisé la messe chrismale par anticipation durant les mois de janvier et février au cours des 5 dernières années, non seulement pour conclure les journées rassemblant le presbytérium autour de l'évêque, mais aussi pour que les prêtres éloignés puissent regagner leur paroisse à temps pour la célébration de la Semaine Sainte. Édouard Takadji.
3 jours passés ensemble au presbytérium autour de l'évêque a permis aux prêtres de prier, de se ressourcer, de partager leurs expériences, de réfléchir sur les difficultés et de rechercher des solutions, de partager les joies et de vivre ensemble comme des frères. À l'homélie lors de cette messe chrismale, le président de la célébration, Mgr Edmond Djitangar, a demandé aux fidèles de prier pour leurs prêtres.
C'est avec beaucoup d'humilité que nous accueillons cette grâce du ministère sacerdotal. Nous agissons au milieu de vous avec la grâce que le Seigneur nous donne. Quand nous vous annonçons la bonne nouvelle, quand nous vous sanctifions par le sacrement, quand nous vous organisons pour gérer au mieux votre vie sociale, économique et pourquoi pas politique, nous avons besoin de votre prière. Nous avons besoin de votre sympathie. Nous avons besoin de votre accueil. L'accueil des missionnaires, l'accueil des prêtres est vraiment le fondement pour la réussite de la mission qui leur est confiée. C'est le signe de l'accueil de la mission et de la bonne nouvelle qui est annoncée.
Devenue une tradition depuis quelques années dans l'archidiocèse de N'Djamena, la messe chrismale est célébrée en janvier de chaque année pour des raisons pastorales. Edouard Takadji, N'Djamena pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. Les Nations Unies ont accusé lundi les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre avec l'armée au Soudan de faire obstacle à l'acheminement d'aide vitale dans la région du Darfour, menacée de famine. Alors que l'armée contrôle l'est et le nord du pays, les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, une vaste région de l'ouest du Soudan où vivent un quart des 50 millions d'habitants du pays. Depuis des mois, ils assiègent la grande ville d'El Fasher, la seule qui échappe à leur contrôle au Darfour. Et cette guerre au Soudan fait ravage depuis 2 ans. De nouveaux gouvernements soutenant respectivement les deux belligérants pourraient bientôt être annoncés. Les explications d'Augustine Passy.
Ces dernières semaines, l'armée soudanaise, qui a longtemps été en position de faiblesse depuis le début du conflit, a réalisé des avancées majeures. D'abord en reprenant en janvier Ouad Madani, une grande ville du centre du Soudan. Vendredi, c'est le quartier huppé de Kafouri, au nord de Khartoum, qui a été reconquis par les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan. Le lendemain, ce dernier annonçait la formation prochaine d'un gouvernement de technocrates qui devrait être instauré une fois que l'armée aura repris complètement le contrôle de Khartoum. Pour rappel, Burhan est à la tête d'un gouvernement intérimaire depuis son coup d'État d'octobre 2021, perpétré main dans la main avec son désormais ennemi, le chef des forces de soutien rapide surnommé Hemeti. Ses paramilitaires règnent dorénavant sur l'ouest du pays. Ils sont soutenus par une coalition de civils qui s'apprête de son côté à établir un gouvernement parallèle dont les missions seraient de protéger des civils, de fournir des services de base ou encore d'apporter une assistance humanitaire. La constitution intérimaire et la charte politique de cette nouvelle instance devraient être finalisées dans les deux prochaines semaines. Le risque, c'est de diviser le Soudan, prévient un cadre de Houma, un des principaux partis politiques du pays des deux Nils. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégale dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est de la Libye, a indiqué dimanche le bureau du procureur général libyen. Une enquête a permis d'identifier l'existence d'une bande dont les membres séquestraient des migrants irréguliers et les torturaient et les soumettaient à des traitements cruels, dégradants et inhumains, a ajouté le bureau du procureur. Trois personnes ont été arrêtées, un Libyen et deux étrangers. Le campement de Koinsan, nom des premiers habitants de l'Afrique du Sud, qui occupait depuis 6 ans le parc du siège de la présidence à Pretoria pour demander une reconnaissance officielle, a été évacué lundi. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires publiques. Et nous restons en Afrique du Sud qui accueillera le 20 et 21 février prochains la réunion du G20 rassemblant les ministres des Affaires étrangères, une rencontre à laquelle pourrait participer l'Ukraine. En effet, Kiev et Pretoria se rapprochent davantage. Mi-janvier, une visite de Volodymyr Zelensky avait été annoncée par Pretoria, membre des BRICS, qui pourrait jouer un rôle important dans le dossier d'enfants ukrainiens déportés en Russie au début de la guerre et dont Kiev souhaite le retour. Marianne Séverin, experte de l'Afrique du Sud, évoque les raisons de ce rapprochement entre Kiev et Pretoria.
Ce que fait l'Afrique du Sud, elle s'est quand même rapprochée de l'Ukraine. Et l'Ukraine, finalement, profite de ce rapprochement. Ils ont déjà commencé à parler de négociations commerciales, sûrement après la guerre. Et finalement, il y a un accord entre l'Afrique du Sud et l'Ukraine pour que l'Afrique du Sud, un, prenne en charge les blessés civils et deux, négocie pour la libération d'enfants qui ont été illégalement enlevés par la Russie. L'autre raison pour laquelle aussi l'Ukraine s'est rapprochée de l'Afrique du Sud, c'est parce que l'Afrique du Sud dirige le G20.
Justement, le sommet du G20 se tiendra, vous l'avez dit, très prochainement en Afrique du Sud pour les 20 et 21 février. Qu'est-ce que l'Ukraine compte obtenir auprès de Johannesburg dans le cadre de ce prochain sommet ?
En se rapprochant de l'Afrique du Sud, le président ukrainien pense qu'il aura un peu plus d'audience. D'autant plus que c'est important, vu que maintenant nous avons le président Trump à la tête des États-Unis. Ça change la donne. L'Afrique du Sud fait partie des pays qui considèrent qu'on doit parler à tout le monde. Le seul intérêt, je pense que c'est la paix. Il ne faut pas être naïf pour comprendre que systématiquement, quand vous avez un conflit, ça ne s'arrête pas aux frontières où il y a des conflits, où il y a le conflit, ça touche tout le monde. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a touché énormément de pays, l'Afrique, l'Union européenne, etc., etc. Donc, en fait, tout le monde a à gagner si ce conflit s'arrête.
Marianne Séverin, experte de l'Afrique du Sud, dans des propos recueillis par Myriam Sandouno. Repartir sur de bonnes bases en diversifiant la formation des prêtres, c'est l'objectif que s'est fixé Mgr Abel Liloala, archevêque de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. À la tête de ce vaste archidiocèse depuis une année, Mgr Liloala nous parle aussi de ce qui a été déjà réalisé et fait une évaluation positive du temps passé comme ordinaire de Pointe-Noire.
Un temps d'évaluation qui est positive. Parce que moi, j'ai la chance d'abord d'être évêque dans les diocèses, mon diocèse d'incarnation. Donc ça fait 30 ans que je suis prêtre et que je travaille dans cette église particulière. Donc, le personnel me connaît, les prêtres me connaissent, les laïcs me connaissent et moi aussi je les connais. Donc ça c'est déjà un atout très important. Et en fonction de l'expérience que j'ai du diocèse, puisqu'à l'époque de Monseigneur Miguel, je faisais partie des institutions du diocèse, le conseil presbytéral, les collèges de consulteurs, tout ça, j'étais au parfum de tous les problèmes, de tous les défis que nous avons à relever dans notre église particulière. C'est ce qui m'a permis, dès que je suis arrivé, de faire d'abord des états généraux. On a fait des états généraux, c'était un moment fort, très intéressant, qui nous a permis de faire les points, de voir un peu d'où nous venons, là où nous sommes et là où nous devons aller. Et après ça aussi, une très belle retraite pour lancer l'année pastorale à Liambo. Liambo, c'était un foyer de charité, où tous les prêtres étaient là et c'était aussi un moment fort où chacun a dit ce qu'il pense. Chacun a pu justement manifester ses sentiments et son désir de continuer à travailler, évidemment, dans notre église qui est à Pointe-Noire. Nous avons fait les affectations, là aussi c'était un moment très fort, il y a eu quelques changements, ce qui est tout à fait normal. Et là, et puis nous avons procédé aux intronisations de différents curés qui ont été nommés, et tout est parti, tout est reparti sur de bonnes bases. Je pense que nous sommes sur la bonne route qui nous mène vers cette église, l'église de Jésus-Christ, qui est ouverte à la charité, à l'espérance, à l'amour et à la foi.
Merci Monseigneur, vous avez dit que vous n'êtes pas un nouveau venu dans ce diocèse, vous les connaissiez déjà bien avant d'être évêque, mais vous avez certainement trouvé certains défis en tant qu'évêque. Quels sont les principaux défis qui se sont présentés ou qui se présentent aujourd'hui dans l'archidiocèse de Pointe-Noire?
Notre objectif, nous, à Pointe-Noire, c'est d'être, et là je peux paraphraser le cardinal Malula qui disait, d'être une église et d'être aussi un clergé, une église intellectuellement forte, une église intellectuellement forte, une clergé intellectuellement fort, pastoralement engagée et spirituellement solide. Nos prédécesseurs ont fait déjà un grand travail pour la formation permanente de prêtres. Les envoyer ailleurs pour qu'ils soient bien formés ou qu'ils perfectionnent leur formation et qu'ils reviennent au diocèse pour qu'on travaille ensemble. On continue sur la même lancée, au niveau intellectuel, formation. Mais au niveau de la formation, je pense à diversifier les domaines de formation. Il y a la théologie et la philosophie qui sont prioritaires, les sciences humaines et pourquoi pas l'agriculture. Au niveau scientifique, pensez un peu à l'agriculture, pensez aussi aux médecins.
La médecine, pensez-vous à la création de structures sanitaires pour les diocèses?
Parce qu'il y a un défi que nous avons aussi au niveau de la médecine. L'Église, je dirais, un peu absente. Nous n'avons pas, par exemple, un grand hôpital, un hôpital qui appartient à l'Église catholique. On en a besoin et cet hôpital sera aussi géré par des médecins, par des infirmiers, prêtres, religieux, religieuses.
Donc, ils seront formés avec toute cette diversification voilà. À laquelle vous pensez. Monseigneur, ce sont des projets ambitieux. Avez-vous assez de moyens pour pouvoir les concrétiser? Comment pensez-vous mettre en pratique tous ces projets?
Ce sont des moyens de bord. Avec les moyens de bord, là, nous avons envoyé deux prêtres à Kinshasa qui font médecine, qui ont commencé la formation en médecine. C'est déjà fait. Nous avons aussi envoyé notre prêtre pour faire un stage pratique au Bénin. Là, c'est fait. En septembre, nous pensons envoyer quelqu'un d'autre, un prêtre en Côte d'Ivoire pour l'agronomie. Là, ce sont des projets. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, enfin, nous voudrions aussi exploiter un peu la zone rurale. Vous savez que notre diocèse, dans le diocèse de Pointe-Noire, nous avons deux réalités, la réalité urbaine et la réalité rurale. Et en zone rurale, comme vous savez, notre terre est très fertile et tout pousse. Alors là, nous avons un projet. Nous commençons d'abord par former. C'est sûr que dans un premier temps, nous allons travailler avec les laïcs. Les prêtres finissent contents de ses intentions de messe. Ils font de cette charge, son ministère, et c'est plus simple. Alors, nous pensons nous consacrer vraiment à l'agriculture dans le Mayombe pour que on fasse l'agriculture une source de revenus qui va nous permettre à affronter tous les problèmes pastoraux que nous avons dans notre église particulière.
Mgr Abel Liloala, archevêque de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il était interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.